La deuxième partie de notre méditation sur la providence et le mystère du mal. Donc vous vous rappelez, ce matin, on a vu que la providence, c'est les dispositions par lesquelles Dieu agit et conduit sa création vers la perfection, que ce Dieu agit dans l'histoire, qui répond et demande de notre part une réponse d'abandon filial et à la providence du Père Céleste, qui répond à nos moindres besoins. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout vous sera donné par surcroît. Et ensuite, on a vu une deuxième partie sur cette providence, que, au fond, cette providence s'exerce par les causes secondes, c'est-à-dire que les causes secondes que nous sommes, par les médiations que nous sommes, les médiations humaines, eh bien, c'est par là que nous sommes appelés à être coopérateurs, collaborateurs de Dieu, comme dit saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Et nous en sommes donc arrivés au numéro 308. C'est une vérité inséparable de la foi en Dieu, le Créateur. Dieu agit en tout agir de ses créatures. Il est la cause première qui opère dans et par ses causes secondes. Car c'est Dieu qui opère en nous à la fois le vouloir et l'opération, même au profit de ses bienveillants, l'opération même au profit de ses bienveillants desseins. Loin de diminuer la dignité de la créature, cette vérité la rehausse. Tirée du néant par la puissance, la sagesse et la bonté de Dieu, elle ne peut rien si elle est coupée de son origine, car la créature sans le créateur s'évanouit. Encore moins peut-elle atteindre sa fin ultime sans l'aide de la grâce. Alors ça, c'est un autre aspect qui est traité justement dans la partie des causes secondes. Dieu qui opère en nous, car c'est Dieu qui opère en nous à la fois le vouloir et l'opération, même au profit de ses bienveillants desseins. Ben voilà, c'est chaque fois en tout cas qu'on reconnaît un bon désir en nous, eh bien nous voyons aussi la trace du Seigneur. Et je pense que c'est important aussi que nous puissions souligner dans les bons désirs des autres la présence du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit agit en nous. Alors, vous me direz, mais est-ce que ce n'est pas un peu facile de dire, ben voilà, les bons désirs, ça vient de Dieu, et puis les mauvais désirs, c'est nous et c'est le Satan, et au fond, Dieu, bon, se lave les mains. Et alors, en tant que tel, Dieu ne peut pas inspirer un mauvais désir dans le cœur de l'homme et de la femme, désir de violence, désir de vengeance, désir de malhonnêteté, désir de tous les mauvais désirs, toutes les formes de mauvais désirs que l'on peut voir, et peut-être désir d'orgueil, de domination, d'égoïsme, voilà, tout ça qui au fond ne nous aide pas, ce n'est pas Dieu qui en est à la source. En revanche, même si dans ses désirs et dans ses actions qui sont inspirées par ses désirs, eh bien, c'est en soi des actions mauvaises, mais Dieu sait tirer le bien du mal. Et là, je pense que c'est ça le point, c'est Dieu agit en tout agir de ses créatures. C'est quand même très fort de dire ça. Dieu agit en tout agir de ses créatures. Mais alors, même le pire des bourreaux, même le pire, etc., Dieu agit en tout agir de ses créatures, il est la cause première qui opère dans et par les causes secondes. Alors, comme on le dit souvent, Dieu n'a pas voulu le mal, il a voulu la liberté. Il n'a pas voulu le mal, il a permis, il le permet. Mais quelque part, cette permission, on le voit dans le livre de Job, par exemple, ça, je vous invite à lire le début du livre de Job, où justement on voit le démon, on parlera du démon plus tard dans nos méditations mensuelles, dans nos haltes spi, mais on voit le démon qui quelque part sort avec la permission de Dieu. Il y a une forme de permission mystérieuse et qui parfois nous surprend, mais on se dit pourquoi ça, pourquoi autant de déchaînements de violence, de haine, Et là, le catéchisme tout bonne bombe qui nous dit Dieu agit en toutes ses créatures. Voilà, donc la deuxième partie qui plutôt touche le cœur même de notre méditation, c'est la providence et le scandale du mal. Alors je lis: si Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du monde ordonné et bon, prend soin de toutes ses créatures, pourquoi le mal existe-t-il? À cette question, aussi pressante qu'inévitable, aussi douloureuse que mystérieuse, aucune réponse rapide ne saurait suffire. C'est l'ensemble de la foi chrétienne qui constitue la réponse à cette question. La bonté de la création, le drame du péché, l'amour patient de Dieu qui vient au-devant de l'homme par ses alliances, par l'incarnation rédemptrice de son Fils, par le don de l'Esprit, par le rassemblement de l'Église, par la force des sacrements, par l'appel à une vie bienheureuse à laquelle les créatures libres sont invitées, d'avance à consentir, mais à laquelle elles peuvent aussi d'avance, par un mystère terrible, se dérober. Il n'y a pas un trait du message chrétien qui ne soit, pour une part, une réponse à la question du mal. Ne perdons pas de vue, mes amis, que la question du mal, de l'injustice, de la souffrance des innocents particulièrement, est un obstacle majeur à l'évangélisation. Ça reste de l'ordre du scandale. Parce que nous ne sommes faits ni pour souffrir, ni pour mourir. Et donc, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Combien de personnes se sont détournées de Dieu à l'occasion d'une épreuve? Mais combien parfois aussi se sont rapprochées? C'est le mystère de la liberté de chacun. Et parfois, tour à tour, dans nos vies, ça a été et l'un et l'autre. Donc on n'est pas, nous les bons ici, le carré des justes, et en dehors les pécheurs. Non, en nous-mêmes, on rencontre et l'un et l'autre. Donc c'est intéressant de dire, au fond, tout le message chrétien, la personne de Jésus, et cette... il n'y a pas un trait du message chrétien qui ne soit pas, pour une part, une réponse à la question du mal, en italique dans le texte. C'est-à-dire vraiment important. C'est vrai qu'il n'y a pas un trait. Je me souviens d'une conférence qu'a donnée Monseigneur Léonard, peut-être vous le connaissez, Monseigneur Léonard, archevêque de Malines-Bruxelles, une conférence qu'il avait donnée au JMJ de Madrid, durant lesquelles j'accompagnais un groupe de jeunes. Et j'étais très touché par cet homme qui est à la fois un grand théologien, à la fois assez incompris dans son diocèse, voire rejeté, mais je le trouve très spirituel, très bon. Il dit les choses, quoi, donc ça ne plaît pas toujours à tout le monde. Et il disait, au fond, quelque part, l'existence de Dieu rend plus scandaleuse encore la question du mal. Parce que si on pense en un Dieu qui en plus est tout puissant et qui en même temps laisse agir comme il laisse agir, on ne comprend pas. Et en même temps on nous dit c'est volonté de Dieu, on ne comprend encore moins. Et que Dieu agit dans toutes ses créatures. Et c'est vrai que je me souviens comme ça d'un dialogue de... J'avais donné un témoignage dans des BTS comme ça pour inviter, quand j'étais aumônier étudiant, à participer à l'aumônerie étudiante, etc. Puis il y a des jeunes musulmanes qui étaient venus me parler à la fin du témoignage et qui me posent la question « Est-ce que vous vous êtes un jour rebellé contre Dieu ?» Je lui dis « Non, parce que ce n'est pas trop ma nature, mais parfois, nous jamais. Tout est volonté de Dieu. » Alors là, j'étais un peu interloqué « Tout est volonté de Dieu. » La souffrance des innocents est volonté de Dieu. Alors du coup c'est compliqué d'agir comme ça. Alors ils étaient jeunes parce qu'ils étaient en études, je pense que d'autres auraient peut-être dit autrement, plus avancés dans leur foi, mais en tout cas pour nous chrétiens, l'existence du mal sans un Dieu qui prenne sur lui notre souffrance, eh bien est juste intolérable et a de quoi rendre athée. Vraiment athée. Et je pense que si Jésus n'existait pas, je pense que je serais athée. Parce que précisément, il y a là une contradiction dans les termes qui est massive et qui, pour l'intelligence, est un défi. Un Dieu tout-puissant, mais en même temps qui serait comme une masse compacte, qui nous regarde d'en haut et qui ne fait rien et qui en même temps toutes les volontés de lui et qui ne, en rien se laisse toucher, mais comment ne pas se rebeller, voire se détourner, voire dire ben non, je n'y crois pas. Mais j'aime bien cette phrase de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, car il me faut un Dieu qui prenne ma nature, qui devienne mon frère et qui puisse souffrir. Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature, qui devienne mon frère et qui puisse souffrir. En Jésus, en sa passion, nous avons un éclairage. Il a pris sur nous, sur lui, nos souffrances. Et de façon atemporelle, ce n'est pas les souffrances des gens qui étaient en face de lui ou des gens qui l'ont précédé, de façon atemporelle, les souffrances de tous les temps, il a pris sur lui nos souffrances. C'était nos blessures, nos souffrances qu'il portait. Le mystère chrétien éclaire de façon admirable et unique dans toutes les religions le mystère du mal. Et si ça reste un défi à certains moments, mais de se tourner vers le Christ, de se tourner vers la Très Sainte Vierge, au pied de la croix, de se tourner, de méditer sur la passion et de prier le chemin de croix. Notre Père fondateur, le Père Lamy, dit souvent, voilà, une âme qui médite le chemin de croix en tirera toujours des bienfaits spirituels. Parce que méditer sur la passion, c'est aussi découvrir un Dieu qui se laisse toucher par le mystère du mal, qui ne reste pas indifférent. En Jésus, Dieu a souffert. Dieu, en tant que Dieu, il n'a pas de souffrance, il est dans une béatitude. Évidemment, ça n'aurait aucun sens de dire qu'il y ait de la souffrance en Dieu, parce que c'est une béatitude. Si Dieu souffre, il dit, mais où est le paradis alors? Mais en revanche, en Jésus, Dieu a souffert. En l'humanité du Christ, le Seigneur s'est fait proche de chaque homme qui, d'une manière ou d'une autre, porte la croix, ou qui est au pied de la croix, parce que l'humanité, d'une manière ou d'une autre, est soit sur la croix, soit au pied de la croix. Et là, je trouve que ça donne un regard, je veux dire, même on peut dire que c'était dit un petit peu avant, que même les souffrances, quelque part, contribuent. Que les souffrances c'est le numéro 307, les hommes peuvent entrer délibérément dans le plan divin par leurs actions, par leurs prières, mais aussi par leurs souffrances. Quelque part, je peux... ça donne une... à ce qui est absurde, parce que le mal est absurde, eh bien, pour nous, il est mystère. Il y a quelque chose de mystérieux dans nos vies. Et je peux associer cette part de souffrance, cette part de passion, je peux l'associer au Christ, et en l'associant au Christ, eh bien aussi je construis le royaume. C'est la foi. C'est la foi pure et en même temps la grandeur du message chrétien. C'est extraordinaire. Sinon, s'il n'y a pas ça, même s'il y a l'existence d'un Dieu, mais qui se laisse tout à fait, qui est tout à fait en dehors de nos réalités humaines, tout à fait loin, tout à fait en surplomb, dans une telle transcendance qu'il n'est atteint par rien, du mystère du mal, eh bien c'est vrai que c'est difficile, l'existence de ce Dieu-là rend difficile la vie, quelque part, rend plus scandaleux encore le mal, parce qu'on y voit là une solution possible, s'il est tout puissant. Alors moi, je crois que c'est toute une vie pour méditer là-dessus, mais tout le message chrétien est pour une part, une réponse à la question du mal. Que ce soit les sacrements, que ce soit le mystère de la Vierge Marie, que ce soit le mystère de l'incarnation, que ce soit le mystère évidemment de la rédemption et du salut, de Jésus qui s'offre pour nous, que ce soit le mystère de l'Église, le mystère de l'Église, est aussi, qui elle-même est pécheresse et atteinte par le mystère du mal, mais aussi en est, d'une manière ou d'une autre, apporte une réponse. Je pense que pour nous, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment méditer, parce que c'est là où on va grandir spirituellement. Hein, j'aime bien cette parole de Jean-Paul II qui dit on peut grandir spirituellement en méditant la parole de Dieu, en priant, on peut méditer, grandir spirituellement en faisant des exercices spirituels, en faisant de la théologie, mais rien comme la croix de Jésus nous donnera de nous approcher du Christ. Rien ne peut plus nous associer au Christ que sa passion. Rien ne peut nous faire connaître davantage Jésus que sa passion et que d'avoir part à sa passion. Parce que là, on le découvre de l'intérieur. Pas seulement de façon intellectuelle, dans un travail de l'écriture qui peut être intéressant, d'une exégèse, d'un travail plus d'intellectuel, d'universitaire, qui est bon, mais pour découvrir le cœur du Christ, ben c'est en sa passion qu'on le découvre. Pour découvrir le cœur de Marie, c'est en la passion du Christ qu'on le découvre. Et c'est pour ça que c'est important de participer à l'Eucharistie, parce que l'Eucharistie, c'est l'actualisation de l'unique sacrifice du Christ. Le Christ se rend présent sur l'autel, et c'est l'actualisation. À chaque Eucharistie, nous sommes de façon sacramentelle, mystérieuse, sacramentelle, au pied de la croix aussi. Nous communions à sa passion, à sa mort, à sa résurrection. C'est ça l'Eucharistie. Et si nous communions, c'est précisément pour avoir la force intérieure, parce que nous sommes faibles, parce que nous trébuchons, parce que nous sommes scandalisés, parce que nous ne comprenons pas, parce que l'absurde n'est pas fait pour notre intelligence. Eh bien, nous voulons communier au corps du Christ pour, spirituellement ou de façon matérielle, nous voulons communier au corps du Christ pour être éclairés. Et découvrir dans cette circonstance douloureuse comment je peux le suivre et être son disciple. Le numéro 310. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé un monde aussi parfait qu'aucun mal ne puisse y exister? Selon sa puissance infinie, Dieu pourrait toujours créer quelque chose de meilleur. Cependant, dans la sagesse et sa bonté, Dieu a voulu librement créer un monde en état de voie vers sa perfection ultime, en cheminement. Ce devenir comporte dans le dessein de Dieu, avec l'apparition de certains êtres, la disparition d'autres, avec le plus parfait, le moins parfait. Avec les constructions de la nature aussi, les destructions. Avec le bien physique aussi, existe aussi le mal physique. Aussi longtemps que la création n'a pas atteint sa perfection. Donc c'est ça, une citation de saint Thomas d'Aquin. Au fond, quelque part, le fait que le monde soit en cheminement fait que forcément, il y a toujours eu des tremblements de terre, le léopard a toujours dévoré la gazelle, même avant le péché originel. Je veux dire, c'est le fait qu'il y ait une certaine mort à quelque chose et naissance d'autre a toujours existé. Mais après, ce qu'il dit était vraiment, je trouve que c'est. Parce qu'on se dit, mais pourquoi il n'a pas laissé créer une création parfaite d'un coup? Pourquoi on n'est pas déjà dans la gloire d'un coup? Parce qu'on peut se poser la question, pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'on est en état de voie, une statuvillée, c'est en chemin, en cheminement, pourquoi c'est comme ça? C'est intéressant de se poser la question. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas déjà été créé dans la gloire, quand Dieu sera tout en tous, et puis c'est tout. D'une certaine manière, le Christ ne serait jamais venu. Et vous vous rappelez cette phrase que l'on chante dans l'exultet de la vigile pascale. L'exultet, c'est juste avant, si je ne me trompe pas, l'évangile dans la vigile pascale, c'est-à-dire la veille du jour de Pâques. Eh bien, on chante l'exultet. Il y a plusieurs lectures, c'est une cérémonie particulièrement longue justement parce qu'on célèbre la résurrection et à un moment donné il est dit, bienheureuse faute qui nous valut un tel rédempteur. Bienheureuse faute qui nous valut un tel rédempteur. Quelque part, alors il faut le comprendre, il faut faire attention aussi à la manière dont on dit les choses hein, là-dessus, sur ce sujet-là. Faites attention, il y a des gens pas forcément éclairés qui disent à quelqu'un qui a perdu son travail, perdu sa femme, à qui on a découvert un cancer généralisé, ben, tu es comblé de grâce et de bénédiction, Dieu t'aime comme jamais. Ça ne veut rien dire. Il y a eu parfois des gens peu éclairés qui ont dit ça et ont scandalisé et ont détourné de Dieu. Attention à nos affirmations. Mais bon, entre nous, dans cette halte spirituelle, je pense qu'on peut aller... peut-être plus loin et plus profond, de découvrir justement que dans le mystère du Christ, s'il n'y avait pas cette humanité en cheminement, mais déjà créée dans une perfection radicale, eh bien jamais le Christ serait venu. Et en quoi le Christ, la connaissance du Christ est si importante que ça, c'est que nous aurions été créés dans une amitié avec Dieu, comme avant le péché originel. Nous aurions été créés dans une amitié avec Dieu. Mais avec le Christ, on change de registre. Ce n'est plus une amitié avec Dieu, nous devenons participants de la nature divine. Et c'est ce qui fait dire, justement, au chant de l'exultet, bienheureuse faute qui nous valut un tel rédempteur. On devient participant. Alors vous dites, mais est-ce qu'il a fallu autant de souffrance? Est-ce que ça valait vraiment la peine que toute l'humanité, de par les siècles, subisse tout ça pour connaître le Christ et pour que... On peut se poser la question, mais en même temps, on ne connaît pas, nous, ce que veut dire être dans la gloire et ce que veut dire d'être dans la pleine communion avec Dieu, y compris avec notre corps. On ne sait pas, mais ce que l'on pressent en tout cas, et on fait confiance aux paroles de Jésus, le connaître lui est l'accomplissement de toute l'humanité. Et en même temps, l'élèvement. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est-à-dire, mais par participation, on est participant de la nature divine. C'est toute chose qu'une simple amitié. C'est autre chose que d'être enfant de Dieu. Comme baptisés, nous sommes participants en Jésus de la nature divine. Nous ne sommes pas Dieu et nous, etc., dans une amitié, comme on peut avoir une amitié, etc. C'est que dans l'humanité du Christ, on est comme on participe à la béatitude de Dieu. C'est-à-dire que ça n'a aucune commune mesure, c'est ce que dit saint Paul, les souffrances du temps présent n'ont aucune commune mesure avec la gloire qui nous attend. Les anges, le numéro 311, les anges et les hommes, créatures intelligentes et libres, doivent cheminer vers leur destinée ultime par leur choix, par choix libre et amour de préférence. Il peut donc se dévoyer. En effet, ils ont péché. C'est ainsi que le mal moral est entré dans le monde sans commune mesure plus grave que le mal physique. Dieu n'est en aucune façon, ni directement ni indirectement, la cause du mal moral. Il le permet cependant, respectant la liberté de sa créature, et mystérieusement, il sait en tirer du bien. Car le Dieu Tout-Puissant, puisqu'il est souverainement bon, ne laisserait jamais un mal quelconque exister dans ses œuvres s'il n'était assez puissant et bon pour faire sortir le bien du mal lui-même. Hein, Saint Augustin. On a vu donc au numéro 310, le mal physique a existé, il y a toujours eu des destructions, pour, des constructions et des destructions, des souffrances physiques, parce que voilà, certains êtres apparaissent, d'autres disparaissent. Hein, mais le mal moral, qui est le fruit de la volonté, du libre arbitre de certaines créatures intelligentes, dans ces créatures, il y a les anges et les hommes. Hein, ce sont les créatures douées d'intelligence dans la création. Les autres n'ont pas d'intelligence. Même si votre chien, vous lui dites, vous lui parlez souvent. On a un frère qui parle beaucoup au chien, mais le chien ne lui a jamais répondu, semble-t-il. Et donc, du coup, mais il n'a pas, c'est pas une créature douée d'intelligence. Il a une sensibilité, oui, mais il n'est pas doué d'intelligence. Donc, du coup, en tant que tel, il ne peut pas être ni gentil ni méchant. Parce qu'un chien, il est mu par l'instinct. Donc, du coup, mais en revanche, les anges et les hommes, créatures libres et intelligentes, elles sont mues par le libre arbitre. Mais là où la puissance de Dieu est grande, c'est qu'il peut aussi tirer de ce mal moral, même s'il ne le veut pas, il le laisse faire, il le laisse advenir pour en tirer un bien plus grand. Parce que c'est là où on voit la toute-puissance de Dieu. C'est le bien qui peut tirer du mal. Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, dit l'apôtre saint Paul. Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Hein, la lettre aux Romains, hein, c'est au numéro 313. Ainsi, avec le temps, on peut découvrir que Dieu, dans sa providence toute-puissance, peut tirer un bien des conséquences d'un mal, même moral, causé par ses créatures. Ce n'est pas vous, dit Joseph à ses frères, qui m'avez envoyé ici. C'est Dieu. Le mal que vous aviez dessein de me faire, le dessein de Dieu l'a tourné en bien afin de sauver la vie d'un peuple nombreux. On parle de Joseph, hein, Joseph dans l'Ancien Testament, hein, pas Saint Joseph, hein, bien sûr. Donc, Joseph dans l'Ancien Testament, donc en Genèse 45, Joseph qui est vendu par ses frères, hein, à une caravane qui passait par là, etc. Et ils disent à leur père, ben, somme toute, il a été mangé par une bête sauvage, et en fait, ils le retrouvent à la cour de Pharaon comme le bras droit de Pharaon. Et les frères ne le reconnaissent pas, et ensuite, eux, évidemment, lui, Joseph, qui a grandi, reconnaît ses frères, leur adresse la parole en hébreu, et ensuite... et leur dit, ben, c'est Dieu qui m'a envoyé là. Même si vous m'avez vendu à une caravane pour esclaves, bien, d'une certaine manière, le Seigneur m'a mis à la droite de Pharaon. Si vous n'aviez pas fait ça, ben, je ne pourrais rien pour mon peuple aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, je suis un homme de pouvoir. Et je peux faire beaucoup pour mon peuple. Sauver la vie d'un peuple nombreux. Voilà, c'est du mal moral le plus grand qui ait jamais été commis, le rejet, le meurtre du Fils de Dieu causé par les péchés de tous les hommes. Dieu, par la surabondance de sa grâce, a tiré le plus grand des biens, la glorification du Christ et notre rédemption. Le mal n'en devienne pas pour autant un bien, bien sûr que non. C'est pas que le mal devienne un bien, ça ne voudrait rien dire, mais c'est que le mal reste un mal, l'injustice reste l'injustice, l'offense, le crime reste le crime, mais de là, nous chrétiens, par la force de l'amour du Christ, par la force des sacrements, par la force de la communion des saints, nous pensons que Dieu peut en tirer un bien. Et il y a des témoignages comme ça très forts, hein, de pardon, par exemple, de personnes qui ont pardonné suite à des très grandes offenses, des offenses qui ont détruit des vies parfois et qui ont bouleversé le cœur des agresseurs et qui ont converti leur cœur. Il y a des conversions comme ça. Alors on se dit, oui, mais est-ce qu'il n'aurait pas valu qu'il n'y ait pas du tout d'agression, pas du tout de... Bon, il se trouve qu'on est dans un monde où il y en a un, il y a cette réalité, mais je crois que pour nous, en tout cas, c'est important de dire dans cette situation, le Christ peut venir à notre rencontre. 313. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le témoignage des saints ne cesse de confirmer cette vérité. Ainsi, sainte Catherine de Sienne dit à ceux qui se scandalisent et se révoltent de ce qui leur arrive, tout procède de l'amour, tout est ordonné au salut de l'homme, Dieu ne fait rien que dans ce but. Un extrait de dialogue. Et saint Thomas More, peu avant son martyre, console sa fille, rien ne peut arriver que Dieu ne l'ait voulu. Or, tout ce qu'il veut, si mauvais que cela puisse nous paraître, est cependant ce qu'il y a de meilleur pour nous. Lady Julian of Norwich, j'appris donc que la grâce de Dieu, qu'il fallait par la grâce de Dieu, qu'il fallait m'en tenir fermement à la foi et croire avec non moins de fermeté que toutes choses seront bien. C'est l'acte de foi, certainement, le plus difficile dans nos vies, que toutes choses seront bien. Qu'à la fin, tout sera résumé dans l'amour de Dieu. Et c'est comme ça qu'on voit sa puissance. Non pas par le fait d'éviter le mal ou que le mal advienne, physique ou moral, mais parce que dans ce mal, eh bien, Dieu y met sa force et en tire au fond un bien qui nous rapproche du Christ et établit son royaume. Nous croyons, et c'est le dernier numéro, fermement que Dieu est le maître du monde et de l'histoire. Mais les chemins de sa providence nous sont souvent inconnus. Ce n'est qu'au terme, lorsque prendra fin notre connaissance partielle, lorsque nous verrons Dieu face à face, 1 aux Corinthiens, que les voies nous seront pleinement connues, par lesquelles, même à travers les drames du mal et du péché, Dieu aura conduit sa création jusqu'au repos du sabbat définitif, en vue duquel il a créé le ciel et la terre. Voilà, c'est vrai que, j'allais dire, ce n'est qu'au ciel qu'on découvrira. Ici, on chemine dans la foi. Ici, notre connaissance est partielle. Ici, on est dans la confiance. Quand on sera dans le face-à-face, eh bien, je comprendrai pourquoi le Seigneur m'a fait passer par là et m'a fait passer. Alors, ça veut dire parfois révolte. Dans les psaumes, on voit beaucoup de ça, hein. À la fois des psaumes de confiance, mais à la fois des psaumes de révolte, d'incompréhension. Tout ça passe dans nos cœurs. Et le mal reste un mal. Ça ne justifie pas le mal, bien sûr. Et en tant qu'il est possible de l'éviter, il faut l'éviter. Je pense aussi, ça me paraît bon, juste l'évidence, mais bon. Hein, il faut guérir les malades, réparer les injustices, réconcilier les adversaires. Mais parfois, il y a des maladies dont on ne peut pas guérir. Parfois, il y a des injustices dont personne ne demande pardon. Parfois, il y a aussi des guerres. Mais vous voyez, par exemple, la réconciliation franco-allemande. La réconciliation franco-allemande est quelque chose d'absolument unique dans l'histoire de l'humanité. Absolument unique. Que des pays frontaliers, après trois guerres successives, en moins d'un siècle, avec les drames qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas, puissent aujourd'hui faire route commune et faire une union. Mais qui a été au cœur de ça? À l'initiative, ben c'est des grands chrétiens, c'est Adenauer, hein, c'est Monet, c'est l'Italien, là, je me souviens plus son nom. Bon, il y a un autre Français aussi qui a été à la source de ça, de cette réconciliation, de cette demande de pardon. Vous savez, en Asie, entre la Corée et le Japon, c'est toujours très tendu. Corée du Sud, j'entends, pas Corée du Nord, là, c'est encore un autre problème. Mais entre la Corée du Sud, qui est quand même un pays libre, et le Japon, qui est aussi un pays libre. Deux pays développés, les relations sont parce qu'il n'y a jamais eu de demande de pardon de la part du Japon qui a pris des femmes coréennes pour les prostituer au Japon et de façon massive. Et pour ça, alors on peut maugréer contre l'Europe, c'est énorme et compagnie, mais c'est vrai que C'est vrai qu'on sent qu'il manque quelque chose qui nous tire vers le haut dans l'Europe, mais cette réconciliation qui a la face du monde, qui fait que force le respect. Force le respect. Et vous imaginez bien, Schuman, je pense à Schuman aussi comme un fondateur de l'Europe, vous imaginez bien que ça n'a pas été évident, sortir de la guerre, de dire voilà, mais on va faire ami-ami avec les Allemands. Ceux qui faisaient ami-ami, c'était les collabos. Donc voilà. Mais c'est ça, d'un mal, ô combien grand comme qu'est la guerre, et bien par la force de l'Évangile, et nous rappelons-nous que le drapeau européen, c'est les 12 étoiles de la Très Sainte Vierge dont il est question dans l'Apocalypse. Ça aussi, c'est bien de le rappeler aussi de temps à autre. Et le bleu qui est la couleur de la Vierge Marie. Il y a toujours eu 12 étoiles. Hein. Ce n'était pas en fonction du nombre de pays. Hein. Même quand il y avait 6 pays, il y avait 12 étoiles. Et c'est un Alsacien qui a fait le drapeau européen. Et il a fait bleu avec 12 étoiles. Bah, c'est un drapeau. Bon, alors même si on a renié notre foi en disant que l'Europe n'a pas de racines chrétiennes, bon, hein, ça c'est juste n'importe quoi, mais ça reste les 12 étoiles, qu'on pose la question d'où ça vient 12 étoiles, ben, ça vient de là, ça vient de l'Apocalypse, couronnée d'étoiles. Au cœur de l'Europe, il y a le mystère chrétien, et au cœur de cette réconciliation. L'action des hommes aussi qui ont agi. Voilà, donc je pense que avez-vous des questions, mesdames, parce que je ne prétends pas du tout avoir épuisé le domaine comme vous l'imaginez, domaine ô combien délicat où il faut rester très modeste et très, et le chemin de chacun passe par des hauts et des bas, mais est-ce qu'au moins des questions de compréhension, des questions de... Ah oui. Non. D'abord, on va venir à leur secours. On va venir à leur secours. Les chrétiens d'Orient, il n'y a pas que les chrétiens d'Orient, il y a aussi les musulmans d'Orient qui se font massacrer. N'oublions pas, non pas aussi. Dans les 2 millions de réfugiés, ce n'est pas 2 millions de chrétiens. Il n'y a pas 2 millions de chrétiens en Syrie, par exemple, réfugiés en Turquie. Bon, donc il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui ne sont pas chrétiens et qui, bon, nous, ça nous touche particulièrement, mais j'imagine que bon, maintenant que leur foi nous édifie, certainement. Hein, nous qui parfois sommes timorés, nous qui parfois sommes, n'osons pas trop dire les choses devant les autres, etc., ou dénoncer, ou dire tout simplement notre foi, eh ben. D'autres l'affirment au risque de leur vie. Nous croyons que d'une manière ou d'une autre, quelque chose de plus beau va en sortir, et plus grand. Comment, j'en sais rien. Je ne suis pas Dieu. Mais je crois que fermement, que quelque chose de beau et de grand va en sortir. Et que si la femme ne passe pas par les douleurs de l'accouchement, jamais elle pourra donner la vie. Et en matière spirituelle, la péridurale, ça n'existe pas. C'est bien d'avoir créé la péridurale pour les femmes, parce que je pense que si on peut éviter la souffrance, c'est bien. Mais en matière spirituelle, il n'y a pas d'anesthésie, je sais, sans anesthésie, quoi. Mais en même temps, ce n'est pas sans grâce. Voilà, il y a un cas qui nous touche, bien sûr, qui nous bouleverse tous, mais on se dit, il y a une injustice massive, il y a une barbarie inouïe en face.
Et comment peut-on expliquer que l'homme soit aussi barbare, comme une mère, avec des choses qui par l'intelligence, il arrive à...
Ah oui, l'intelligence, comment est-ce qu'on peut expliquer que l'homme soit aussi barbare, sanguinaire? Regardons-nous nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, pendant des années, j'étais aumônier de prison. Et en Amérique latine, et donc là, forcément, aumônier de prison, vous imaginez que ce n'est pas que les saints innocents qui sont enfermés. Même si tous étaient innocents, et la première chose qu'il me disait, que je suis innocent, j'ai rien fait. Si tu es là, c'est que bon, il peut y avoir des erreurs judiciaires, mais quand vous voyez la tête, bon, faut pas juger à la tête, vous me direz, mais bon, quand même, ça peut aider. Et puis le casier judiciaire, attention, Seigneur. Mais bon, mais en même temps, ça m'a fait beaucoup progresser ce ministère, parce que en même temps, je ne me suis pas découvert si différent. Alors moi, je n'ai pas tué père et mère, je n'ai pas violé, je n'ai pas volé, je n'ai pas braqué à main armée. Est-ce que je n'ai pas eu des désirs impurs? Est-ce que je n'ai pas eu de la violence intérieure contre mon frère? Est-ce que je n'ai pas eu des propos durs? Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? Hein? Ben, si tu te mets en colère contre ton frère, je te le dis, demande pardon, sinon tu en répondras jusqu'à la fin. Donc, analysons d'abord notre cœur. Certains passent à l'acte, mais quelque part, nous sommes capables du pire. Qu'on touche à vos familles. Qu'on touche à vos familles. À vos enfants, à votre mari, à ce qui vous est, à vous est la prunelle de vos yeux. Ça peut monter très vite en température. C'est pour ça qu'on a besoin de Jésus. Pour réconcilier l'homme, pour être sauvé de ça. Parce que livré à nous-mêmes, on ne vaut pas mieux. Alors on ne passe pas à l'acte, bien sûr, parce que bon, voilà, on a une éducation, on ne pense pas que personne ici viendrait à décapiter de ses propres mains quelqu'un d'autre. Alors, ce serait un tel aveuglement, ce serait bon, mais c'est même pas envisageable. C'est intéressant de voir par exemple les nazis, etc. Ensuite, il y a eu beaucoup et de très bons pères de famille, mais embringués dans leur système, dans une machine à tuer, j'ai obéi aux ordres. C'est ce qu'ils disaient tous, j'ai obéi aux ordres. Mais jamais vous vous posez la question que vous. On mettait peut-être les plus durs, peut-être à la fin de la chaîne, mais tous les autres avant là, j'obéis aux ordres. Et je me souviens, je ne sais pas si vous connaissez, j'en ai peut-être parlé de Maïti Gertamer, ça vous dit quelque chose? Maïti Gertamer, qui est une femme qui est maintenant décédée, qui est oblate dominicaine, et qui a été fait de la résistance, elle était virtuose de piano, une toute jeune, elle a été prise par les Allemands. Torturé par un médecin autrichien au niveau des nerfs et paralysé pratiquement le reste de sa vie avec des douleurs terribles. Bon, et bien sûr, plus de piano, plus rien du tout, alité en partie. Et finalement, le médecin autrichien, médecin, c'est pas quelqu'un d'inculte, c'est quelqu'un qui a des études, qui a de la culture, qui a de la réflexion, qui a le souci des autres. Si on est médecin, c'est que pour ça. À la fin de sa vie, a réuni sa famille et a dit voilà qui j'étais. Moi aussi j'ai torturé dans les camps, etc., etc. Et il avait ce témoignage de cette jeune fille qui, contrairement aux autres, m'a prié, pardonné à ses bourreaux. Il dit il faut que je la retrouve avant de mourir. Il la retrouve par X circonstances, et il lui dit, il m'a fallu des années, et c'était quelqu'un d'intelligent, hein, des années pour croire que le nazisme n'était pas la solution. Mais des dizaines d'années après la chute, après la défaite, tellement l'embrigadement était grand, tellement l'intelligence était déviée. Et on parle de quelqu'un d'intelligent. Et après, il a demandé pardon. Donc voilà, je pense qu'il faut rester là-dessus très, modeste. Tous, nous sommes capables de beaucoup de choses terribles. Et ben, il faut demander au Seigneur qui nous en préserve. C'est pour ça qu'on a toute la vie spirituelle qui nous aide à devenir meilleurs.